coup la suite avec Mohamed, Pierre, Patrick et avec nous ce soir une rencontre au sommet entre deux génies. N'ayons pas peur des mots, un génie de l'écriture qui ne rate jamais aucune rentrée littéraire ni aucune rentrée de C'est à vous.
Bonsoir Amélie.
Bonsoir Alessandra.
Comment vous allez? Je vous fais une bise.
Bonsoir.
Bonsoir Anne-Sophie.
Vous allez bien?
Très bien.
Bonsoir Amélie.
Bonsoir Anne-Sophie.
Venez, je vous embrasse.
Bonsoir Amélie.
Bonsoir Amélie.
Bienvenue.
Bonsoir.
Mais quel chapeau.
Bonsoir chère Amélie.
C'est un plaisir de vous retrouver.
Bonsoir Amélie Nanteau.
Bonsoir. Bonsoir.
Bienvenue ce soir à la table de C'est à vous. Bonne rentrée littéraire chère Amélie Nanteau.
Merci infiniment.
Ah oui.
À votre santé.
À ses côtés ce soir, un génie de la comédie, ancien pensionnaire du Français, déjà salué par un César du meilleur acteur, incontournable au cinéma et toujours, toujours, toujours prêt à nous suivre dans nos délires.
Je pourrais pas, ah bah je si. Ne pourrais pas jouer. Tata, le mec qui démarre, un truc super. J'en rêve. Non.
C'est n'importe quoi,
oui.
Là, non?
Ouais, là, je suis parti sur du n'importe quoi. Je suis parti plutôt sur la formule n'importe quoi.
Attends,
on a très mal démarré. Il n'y a aucune alchimie, c'est terrible.
Ça va opérer, l'histoire.
Oh merde, ça tombe sur moi.
Aujourd'hui, nous avons un morue. Couilles à basse température.
Vous avez dit couilles, ça l'a fait rire.
Il n'y a pas beaucoup de texte, mais il y a du broutage. Du bruit.
Alors, j'avais pas bien compris la règle du jeu, je pensais qu'il fallait juste doubler, mais apparemment, il y a autre chose.
Amélie Nothomb et Pierre Linet sont ce soir nos invités. Bonsoir, chère Amélie.
Bonsoir, les enfants.
Bonsoir, Pierre Linet.
Bonsoir.
Bonsoir, les enfants. Il n'y a que Pierre qui peut dire ça. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Je sais, Amélie, que vous êtes très émue à l'idée de rencontrer Pierre parce que vous avez vu absolument tous ses films.
Dès qu'il y a Pierre Ninet à l'affiche, je vais voir le film sans même savoir ce que c'est et je ne suis jamais déçue.
Jamais. Mais même pas une petite fois.
Mais dans tous les registres, que ce soit comique, que ce soit tragique, que ce soit amoureux ou n'importe quoi, c'est toujours formidable.
Vous allez donc adorer...
Moi, je vais partir maintenant parce que j'ai l'impression qu'après, ça peut que redescendre.
Vous nous connaissez bien. Vous nous connaissez très bien. Vous
allez merci, donc... ça me fait trop plaisir.
Vous allez adorer... La boîte noire ou boîte noire?
Boîte noire.
Boîte noire. Ouais. Je me disais bien qu'il n'y avait pas de là. Vous voyez, ça commence déjà.
Ça commence, je savais que je devais partir.
Thriller implacable avec Pierre dans la peau d'un enquêteur du BEA, le fameux bureau des enquêtes de l'aviation civile. Il doit résoudre l'énigme d'un crash aérien. Qu'est-ce que vous aimez chez Pierre?
Bon, commençons par la... Je suis désolée
la
de dire... Il est très beau. Il faut quand même le dire.
Ça, c'est,
c'est le plus beau garçon de sa génération.
De sa génération.
Mais franchement, vous en connaissez un aussi beau que lui, ça se met
en c'est adorable.
Non. Et en plus, il joue comme un dieu. Il est convaincant dans toutes les émotions. Il est extraordinaire.
Oh, c'est incroyable.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant de
tout ça? Non, mais franchement, j'ai vraiment. J'ai bien fait de venir. Non, mais en plus, venant de vous, ça me fait triplement plaisir. Merci, je suis très, très, très gêné. Oui.
Trois fois plus plaisir.
Triple, ouais. Non, mais vraiment, je ne sais pas quoi dire.
Je ne dis que.
Vous ne dites que la vérité.
Non seulement que la vérité, mais que des banalités, parce que c'est ce que tout le monde pense de Pierre Ninet.
C'est vrai. C'est banal, en fait, ce que vous dites.
Désolée. C'est banal, mais ça vient du fond du cœur.
Oh, voilà.
Vous avez un point commun, tous les deux, le trac. Amélie, à chaque rentrée littéraire, il y a le trac.
C'est épouvantable.
Ça fait 30 ans que ça dure.
Ça ne fait qu'empirer.
Pierre, c'est pareil. Avant la sortie de chaque film, avant de presque autant presque pareil que quand vous montez sur scène, vous avez la boule au ventre et si vous êtes dans la salle pendant une projection, vous rejouez la scène parce que vous pensez que ça peut
aider un peu. Ouais.
Vous aidez-vous sur l'écran?
Je pense que c'est une déformation professionnelle qui vient du théâtre. Je ne peux pas laisser filer le film sans que je l'accompagne un peu. Et donc, j'ai jamais regardé une avant-première d'un film un peu détendu dans le fauteuil en me disant le job est fait, c'est là, maintenant profitez. Non, je redis un peu les répliques, je colle un peu au truc. Vas-y, bien, la coupe là, ouais, c'est coupé, ok. Et donc je rejoue le truc, ça sert à rien, je perds énormément d'énergie et de
poids. Ah, ça sert à rien?
Non, en fait. Alors, des études très sérieuses ont été menées aux États-Unis, en Norvège, ça ne sert à rien.
C'est comme si Amélie corrigeait ses propres livres une fois imprimés.
Exactement.
Proust le faisait. Proust, quand il allait chez les gens, reprenait ses livres dans la bibliothèque et les corrigeait.
Ah oui, ça c'est bien.
Amélie, vous pourriez imaginer une salle comme une salle de cinéma, mais pleine de lecteurs en train de lire votre livre. Et vous, les voyant réagir, ou pas, parce que c'est ce qui se passe pour les acteurs et les actrices. Vous imaginez un peu ça?
Je pense que ce serait pour moi le comble de l'obscénité et que je m'en irais en courant.
Ah, c'est dommage parce que j'avais prévu qu'on le vive là maintenant tout de suite.
À chaque fois, c'est happening, ça foire. Quand je suis là, en tout cas, quand je suis là. Hein.
Parce qu'on voulait, par exemple...
Mais si c'est Pierre Ninet, c'est une exception.
Si Pierre lisait vraiment la l'incipit de votre 30e roman, Premier sang. On vous filme, Pierre. Rien de plus, Amélie regarde.
On me conduit devant le peloton d'exécution. Le temps s'étire. Chaque seconde dure un siècle de plus que la précédente. J'ai 28 ans. Et face à moi, la mort a le visage des 12 exécutants. L'usage veut que parmi les armes distribuées, l'une soit chargée à blanc. Ainsi, chacun peut se croire innocent du meurtre qui va être perpétré. Je doute que cette tradition ait été respectée aujourd'hui.
Waouh.
Non, je découvre.
C'est bien écrit, hein, en plus.
C'est une prise d'émission de pleine nuit à 4h du matin quand on tombe sur la TNT.
C'est vrai, ça me fait plaisir, ça aussi.
Cette âme face au peloton, c'est votre père, c'est Amélie, père. Patrick Nothomb, dont vous racontez dans cet ouvrage très personnel la vie romanesque de son enfance à sa carrière dans la diplomatie qui aurait pu lui coûter la vie. Votre père disparu en mars dernier, héros de votre 30e roman, un chiffre rond comme il les aimait tant.
Non seulement mon 30e roman publié, mais en fait le 100e que j'écris, puisque vous savez que j'écris infiniment plus de romans que je n'en publie. Papa adorait les chiffres ronds, donc je pense qu'il aurait adoré que ce soit mon 30e livre publié et le 100e livre écrit.
Un magnifique livre, Premier sang, on en parle longuement, mais il est 20h06 et c'est l'heure de vue. Priorité au direct, si vous nous rejoignez, édition spéciale parce que Jean-Paul Belmondo est décédé, l'un des derniers grands monstres du cinéma français, nous a quittés à l'âge de 88 ans.
Ça va peut-être vous faire sourire. Mais quand je vois une abeille, pardon. Qu'est-ce que je disais?
Vous parlez d'abeille.
Ah oui. Lorsque je vois une abeille porter le pollen de fleurs en fleurs et perpétuer ainsi la vie, j'ai presque les larmes aux yeux.
Belmondo, Delon sont des séducteurs incroyables. Ils enchaînent les conquêtes féminines. Vous voyez, on n'est plus du tout dans le 19e siècle où on se cachait de ça. Même les grands séducteurs se cachaient. Ils étaient plus discrets. Là, il y a une espèce d'ostentation.
Vous plaisez aux femmes?
Je ne sais pas.
On n'est pas du tout dans les théories du genre d'aujourd'hui. On n'est pas du tout dans les fluidités des genres. On est dans l'affirmation de deux sexes. Les hommes sont très hommes, les femmes sont très femmes.
Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille.
Voteriez Éric Zemmour sans...
Donc, face à Emmanuel Macron. Face à Emmanuel Macron.
Un dealer condamné, sa mère expulsée. C'est la décision qui fait polémique à Nice. Cette femme vient d'apprendre qu'elle devra quitter son logement. Son fils a été condamné à de la prison. C'est inédit.
Cette maman est responsable des actes des personnes qu'elle héberge, en particulier de son enfant. Et je considère qu'elle aurait pu demander à la ville des mesures d'accompagnement. Elle ne l'a pas fait.
Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur?
Non.
Un voleur, de temps en temps, ça se repose.
En quelques clics et dans l'anonymat le plus total, la possibilité de dénoncer au fisc des fraudeurs. Un voisin, par exemple, qui aurait un compte caché à l'étranger. Ou un commerçant qui aurait recours au travail au noir. Ce nouveau site mis en place par l'administration du Bade-Württemberg fait scandale.
Peur sur la ville? Quel spectateur ne s'est pas inquiété pour l'acteur debout sur le métro en plein Paris? Une image ancrée pour toujours dans l'histoire du cinéma. C'est bien cela qui fait de Belmondo un monstre sacré du 7e art.
J'ai un regret, je vous le dis, c'est que cet été, je devais aller le voir.
Ouais, une petite histoire rigolote. Hein?
Toc toc badaboum!
Ce pilote de course, il s'appelle Dario Costa, il a 41 ans, et avec son avion, l'Italien a traversé deux tunnels consécutifs, juste à côté d'Istanbul en Turquie, plus de 2 km à 245 km/h.
L'espace de quelques secondes, le jour, en pleine nuit, sur le port d'Arzal, dans le Morbihan. Il est 23h46, lorsque ce flash lumineux, sans doute une météorite, est observé depuis la Bretagne.
J'espère
que, à force d'entendre pendant 9 mois les victimes expliquer toutes leurs souffrances, qui sont énormes dans l'histoire du Bataclan, à force d'écouter les gens qui parlent de leurs blessures et tout ça, que Salah Abdeslam parlera, quoi. Il y aura quelque chose. Pardon.
Au lendemain des attentats, le 14 novembre, Salah Abdeslam fuit vers la Belgique. La police procède à des dizaines de contrôles et il va être arrêté 3 fois. C'est à ce moment-là qu'il sera interrogé par une radio belge.
Certains automobilistes sont arrêtés à chaque contrôle, comme ces 3 jeunes de type maghrébin.
Avec celui-là, c'est le troisième.
Troisième contrôle. Franchement,
on a trouvé ça un peu abusif. Hein. Mais on a compris un petit peu le sens.
Le pourquoi, en fait. Après, on a su le pourquoi.
5 mois avant le 11 septembre, Massoud est surtout là pour faire passer un message.
Qu'est-ce qui s'est passé?
La tour s'est effondrée. Les étages du haut se sont écroulés. Je les ai vus exploser et j'ai couru à toute vitesse. Dieu merci. J'ai 69 ans, mais j'arrive encore à courir.
Le fils du commandant Massoud a-t-il déjà perdu la bataille du Panjshir, le fief de son illustre père, au lieu de la résistance des Moudjahidines afghans? C'est ce qu'affirment les talibans. Attention à la communication des deux camps.
L'espèce la plus dangereuse pour l'être humain est probablement l'être humain lui-même. Oui. Après, loin derrière, viennent les moustiques.
Je crois que quand la passion n'est pas partie, regardez Charles Vanel, il a 90 ans et il joue toujours à comédie. Je crois qu'il faut jouer tant qu'on en a envie. Je crois qu'on vieillit du moment où on n'a plus envie de quelque chose.
Le roi des Baobabs est mort de sa belle mort. Ailleurs sur l'île, d'autres sont fauchés en pleine jeunesse. On brûle la forêt autour d'eux pour cultiver. Avec leur nature fibreuse, ils résistent au feu. Mais ensuite, ils ne résistent pas longtemps à la solitude, dans les rizières. Les chercheurs ne l'expliquent pas, mais les baobabs isolés finissent par mourir.
Voilà pour le vu du jour qui, j'ai remarqué, vous avez fait beaucoup réagir tous les deux, notamment ce pilote d'avion qui passe sous des tunnels, Pierre.
J'étais perplexe. Je me demandais pourquoi faire ça, mais c'est dingue, ça doit être dingue.
C'est fou, ouais. C'est une cascade à la Belmondo.
C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ou à la Tom Cruise. Ouais.
Ou à la Tom Cruise. On vous a demandé de choisir une image d'actualité qui vous a fait réagir ces derniers jours, ces dernières semaines. Ce sont les incendies en Grèce. Qui ont retenu votre attention, Pierre.
Ouais, enfin surtout cette image-là en particulier, qui est vraiment pour moi digne d'une image d'un Avengers, quoi. Mm. On est vraiment, ça y est, on est projeté dans cet imaginaire collectif que Hollywood a cultivé pendant des années. Et je suis toujours un peu estomaqué.
À bord d'un ferry, ouais. Un bateau au large d'une côte.
Des gens évacués, ouais, des gens évacués par ferry parce que c'est en train de brûler complètement. Et cette image est tellement apocalyptique que vraiment ça me renvoie à ces films qu'on consomme tellement en ce moment d'Avengers et tout, et où ce fameux enjeu à chaque fois qu'ils arrivent à nous remettre, ils sont forts, c'est sauver la planète, sauver l'humanité. Alors généralement le danger est moins sous forme d'empreintes carbone ou de feu, mais d'un monstre géant qui écrase des buildings. Et quand c'est à nous, à notre tour, de relever vraiment ce défi et à notre tour d'être un peu les héros, en tout cas, de notre propre humanité, on est complètement incapable de. On fait un demi-pas en avant, 3 pas en arrière. Je ne veux pas céder au pessimisme, mais quand je vois ça, je me dis, on y est. Comment on ne voit pas que c'est le plus grand challenge maintenant et qu'il n'y en aura pas d'autres si on ne relève pas celui-là?
Le plus grand défi à venir pour votre génération et pour celles qui vont suivre Pierre. Amélie, vous avez choisi une actualité cinématographique. Le film du japonais Hamaguchi, qui a eu le prix du scénario au dernier festival de Cannes, Drive My Car, l'histoire d'un metteur en scène meurtri par un drame personnel, la perte de sa femme, et qui noue une relation avec son chauffeur, une jeune femme.
C'est un chef-d'œuvre, c'est un film qui fait énormément de bien. Ce metteur en scène découvre sur sa femme morte, des choses qu'il aurait préféré ignorer. Et il parvient à les accepter. C'est extrêmement beau. C'est un très beau film d'amour sur tout ce qu'on peut accepter des mystères de l'être aimé. Et indépendamment de toutes les immenses qualités du film, je pourrais en gloser pendant 3 heures, c'est le premier film, à ma connaissance, dans lequel apparaît le masque. La dernière séquence, les 5 dernières minutes, ont lieu avec le masque. Tous les acteurs sont masqués, donc sans qu'il y ait le moindre commentaire, on passe de l'air non-Covid à l'air Covid, sans l'ombre d'une émotion. Ça se passe comme ça. Et c'est vrai qu'en voyant ce film, tout à coup, je me suis dit, mais en fait... Même le cinéma en prend acte, on a changé d'air et on porte le masque et c'est comme ça maintenant.
Oui, il va falloir s'y habituer. Le défi pour la planète et le défi aussi contre une pandémie qu'il faudra relever. Merci à tous les deux d'avoir accepté de commenter à votre façon l'actualité. On continue ce bloc-notes avec la story média de Mohamed Bouafsi. C'est une nouvelle série policière que vous nous présentez ce soir et qui veut... révolutionner le genre.
En tout cas, qui veut créer l'événement. Vous pensez tous, bien évidemment, que les séries policières se ressemblent, qu'on y trouve toujours les mêmes acteurs, les mêmes scénarios, les mêmes crimes. Eh bien non, demain, France 2 lance sa nouvelle série événement, Les Invisibles. Ce nouveau programme nous emmène au cœur d'une brigade en marge de la police qui s'intéresse aux corps non identifiés, des corps sans histoire, sans passé. L'équipe des Invisibles doit redonner sa dignité aux victimes, trouver leur nom, sinon ils sont enterrés dans une fosse commune au bout de 7 jours.
Bon alors, qu'est-ce qu'on a ?
Alors, il n'y a aucun papier d'identité sur la victime, empreinte non fichée.
Aucun avis de disparition correspondant.
Je dirais qu'il est mort depuis au moins 4 jours.
Et pourquoi personne s'inquiète pour toi ? Ok, bah c'est pour nous alors.
On n'a que 7 jours pour retrouver l'identité de nos victimes. Sinon, elles finissent sur la fosse commune.
Et votre boss ? On m'a dit qu'il était quasi incontrôlable. Un gros casse-couille, quoi.
Bonjour, commandant Darius, enchanté.
Les Invisibles, ça vient d'Olivier Norek, qu'on adore ici. L'homme qui a imaginé cette série est le roi du polar français. Ancien capitaine de la police judiciaire, Norek nous emmène dans son univers. Un polar noir qui nous fait voyager au cœur de l'actualité sociale française avec une équipe détonnante. La série a été tournée dans le nord de la France. L'idée, c'était des personnages hors du commun, mais aussi des images très réalistes.
Elle se démarque aussi artistiquement, c'est-à-dire qu'on a une image un peu volontairement assez léchée. Moi, je sais que mes 3 épisodes avec le chef-op avec qui j'ai travaillé, qui est Denis Rouden, qui fait entre autres tous les films d'Olivier Marchal, on a voulu qu'il y ait beaucoup de mouvements, donc il y a un dynamisme volontairement, je pense, sur la série à l'image, et ça se ressent, et aussi bien dans la lumière qu'on a choisie, qui est un peu pas dark, mais qui est assumée, un peu sombre quand même.
Le but de cette série, c'est aussi de redonner une humanité aux défunts, tout en accrochant les amateurs de séries policières. Les téléspectateurs vont-ils adopter cette équipe de choc ? Voici un extrait en avant-première.
Prends une photo, s'il te plaît, de cet angle-là. Super, merci. Alors ? Ça se passe bien chez les grosses couilles.
C'est sa signature. Alors t'es gentil, tu rassembles tes clowns et tu me laisses bosser.
C'est un cadavre non identifié, donc c'est une affaire pour nous.
Tu déconnes.
Pierre, ça vous dit ? Je crois savoir que vous consommez un petit peu les séries policières, ça vous tente ?
Ouais, pourquoi pas, ouais, j'adore ça. Moi, j'aime particulièrement ce que fait HBO. Je trouve qu'il y a toujours une ligne artistique. Ouais, et que c'est toujours très fort. Dans la comédie, d'ailleurs, je pense à Curb Your Enthusiasm de Larry David. Et puis récemment, il y a une série avec Kate Winslet qui est vachement bien, qui s'appelle
très bien.
Mary of Easttown, et c'est vachement bien.
Alors franchement, c'est ultra réaliste, ça rappelle un peu la série américaine Cold Case. C'est tourné avec beaucoup de précision. Les Invisibles, c'est 6 épisodes à partir de demain soir sur France 2 pour s'imposer dans le monde de la série policière française et surtout pour ne pas faire oublier que nul n'est invisible.
Merci Mohamed, l'œil de Pierre.
Alors bon.
Il n'en a pas qu'un, mais pour C'est à vous, c'est l'œil de Pierre. Et ce soir, vous vous penchez sur la longue et peut-être éternelle obsession d'Oliver Stone sur l'assassinat de John Kennedy à Dallas.
Eh oui, le Vietnam avec Platoon, l'assassinat de Kennedy avec JFK, ce sont les poutres maîtresses de la filmographie d'Oliver Stone. Et au Festival de Cannes, comme au Festival de Deauville, qui a ouvert vendredi, où l'on pérennise le pont Deauville-Cannes, Oliver Stone présente un film documentaire intitulé JFK, l'enquête. 30 ans après JFK, justement, Oliver Oliver Stone pousse l'investigation encore plus loin à partir d'un bouquin extrêmement précis qu'il a découvert, mais aussi 60 000 documents américains enfin déclassifiés. Le doc insiste sur le rôle supposé de la CIA et sur le nombre de balles tirées et donc sur le nombre de tueurs. Oswald était-il seul ou pas ?
The FBI concluded that all three bullets struck inside the car.
He was hit for the first and the third. The second shot hit the governor. The third shot tore a large part of the president's head off.
The Warren Commission put itself in a straitjacket. They could not possibly allow more than three shots, because four shots or more would have clearly indicated conspiracy, and they were not going there.
C'est donc la grande affaire de la vie d'Oliver Stone. Et pourtant, en novembre 63, lors de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, comme il l'expliquait ce week-end à Mireille Serre, Oliver Stone se contente des thèses du gouvernement.
I was a student at in a boarding school in Pennsylvania, and of course I believed everything they said. In those days, this was way, I was an innocent. I was a typical American citizen.
En 91, avec JFK, et aujourd'hui, Oliver Stone est à l'opposé de la naïveté, obsédé par tout ce que l'on lui cache encore. Pour lui, pas de doute, c'est la modernité, le progrès et l'ouverture d'esprit de John Kennedy et de son frère Robert qu'un certain nombre d'Américains ont voulu tuer en 63.
The hero. He is a hero because he tried to bring peace in our lifetime. People who did not want to see Kennedy's power continue because he threatened the entire country. He was a force for change. He was a Roosevelt-type figure. Now, they'd been through 20 years of Roosevelt. They didn't want to have 20 years of Kennedy brothers. It is not a simple story at all. It's a complex story and goes to the heart of our American government. This is a coup d'etat. The work I did as a filmmaker is a private citizen work. It should have been done by the government.
Alors évidemment, accuser la CIA de l'époque et parler d'un coup d'État, certains ont eu vite fait ces temps-ci de traiter Oliver Stone de complotiste. Myrtille lui a balancé le mot.
Oh, that's such bullshit. So, you know, that word conspiracy theory was actually suggested by the CIA back in 1950s. So, I mean, you can never win this argument. You're always going to be a conspiracy theorist. I don't care. They can call me what they want.
Et voilà. Ça sort le 22 novembre, évidemment.
Patrick ?
J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Oliver Stone. Il se trouve qu'il y a un autre auteur pour qui, alors, j'ai une admiration infinie. C'est Stephen King, qui a passé à peu près 2-3 ans de sa vie à dépouiller l'ensemble du dossier de JFK, qui en a fait un roman extraordinaire qui s'appelle 23-11-63, qui est une uchronie, l'histoire d'un prof de lettres qui est propulsé dans le temps pour tenter d'empêcher l'assassinat de JFK. Et au sortir de ce bouquin, Stephen King a dit, pour moi, et c'est aussi dans le livre, à 99%, c'est Oswald seul et il n'y a pas d'aide de la CIA et il n'y a pas de complot. Moi, voilà, j'en suis resté là-dessus, mais je vais aller voir
un roman contre un document.
Hein ?
Un roman contre un document.
Ah oui, c'est un roman documenté. Un roman très documenté à partir de recherches de Stephen King.
Moi, je sais, mais j'ai pas le droit d'en parler trop. C'est le seul truc chiant, c'est que je suis un peu...
Mais vous savez depuis longtemps.
Moi, je sais depuis longtemps.
Et c'est plutôt Stone ou plutôt...
Non, c'est pas ce qu'on croit. C'est...
Ah, c'est différent.
Ouais, a priori, c'est Nagui. A priori. Voilà, mais c'est mes infos après. On va dire que je suis plutôt autiste.
Elles me paraissent très solides quand même. Hein.
Oui, oui. Non. C'est si quand même, Nagui, je ne sortirais pas ça comme
c'est
ça.
C'est marrant parce que je m'étais déjà demandé si Nagui pouvait avoir un truc à voir avec Kennedy. Et ça me paraît
l'un des maintenant.
C'est sur les dates, ça concorde.
Ouais.
Ah, sur les dates, ouais. Ça correspond exactement à sa naissance.
Donc, déjà rien que ça, ouais. C'est pas un peu bizarre.
Il voilà. Est né en 63.
Oui.
Ah oui, non, mais c'est dingue.
Vous connaissez vraiment la date de naissance de Nagui ?
Je crois, oui.
D'accord. Bah, déjà, ça m'impressionne.
Il
en faut peu.
C'est son anniversaire ce soir, à Patrick.
C'est vrai ? Ah, mais joyeux anniversaire.
Aucun rapport.
Ouais, rien.
J'ai l'impression que je passe toujours à votre émission le jour de votre anniversaire.
Je crois que c'est tout à fait possible.
Oui, oui, oui. J'en suis bouleversée, je suis sûre.
C'est peut-être un complot aussi, Amélie.
Je pense que c'est un
complot. Commence à faire beaucoup,
absolument.
Hein.
Exactement. Que s'est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? C'est la question à laquelle vous tentez de répondre, cher Pierre. Dans la peau d'un acousticien, technicien au bureau d'enquête de l'aviation civile, le fameux BEA, acousticien chargé d'écouter et d'analyser les sons enregistrés dans les fameuses boîtes noires, qui ne sont pas noires, qui sont...
Orange.
Orange.
On le découvre dans le film. On
ça aurait pu s'appeler Boîte Orange.
Alors on a hésité.
Et puis, finalement, ça paraissait plus clair, Boîte Noire.
Voilà, je pense pour les gens. Non, mais ceci dit, les gens vont découvrir beaucoup de choses. Il n'y a pas du tout besoin d'aimer l'aéronautique ou de se. Enfin, même si on a peur en avion, on peut voir le film. C'est vraiment un film d'enquête, un film de suspense. Yann Gozlan, le réalisateur, moi, avec qui j'ai eu la chance de travailler sur Un homme idéal, il creuse un sillon que je trouve extraordinaire de maturité, de précision, de documentation sur ses films. Et je suis extrêmement fier de ce film-là parce que je trouve que ça n'a rien à envier aux Américains et que c'est bien de redire qu'on a des réalisateurs français qui savent faire du thriller vraiment fort, puissant. Et en plus, on apprend des choses. On voit effectivement cette boîte noire. On a tous des fantasmes autour de des crashs d'avion, une petit fantasme un peu morbide aussi autour de qu'est-ce qui se passe dans un avion, pourquoi il se crache, comment. Et le film explore cette peur et en même temps on découvre la réalité de ce job qui est un peu dingue quoi.
C'est un excellent film avec un excellent Pierre Niney, bande annonce.
Crash dans les Alpes, un Atrian 800 qui reliait Dubaï à Paris, au moins 300 passagers.
T'as pu avoir accès aux données à Cars et à la trajectoire ?
Ouais, l'appareil a piqué rapidement. Ça a été très brutal.
Les experts du BEA ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de localiser les boîtes noires.
Mathieu, j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements.
C'est bon, c'est exploitable.
Atténue le moteur dans le médium.
Concentrez-vous sur ce qu'on entend.
J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire. Elle a été falsifiée.
Vous avez intérêt à avoir raison.
Bienvenue, chère Amélie, chère Pierre, à la table de C'est à vous. Le traditionnel verre de champagne, coupe de champagne pour Amélie. On sait recevoir la table de C'est à vous. Je vous présente Julie Chex, qui est notre chef du jour. Le restaurant s'appelle le Benvengudo.
La Benvengudo.
La Benvengudo.
Bienvenue en Provençal.
Bienvenue en Provençal, c'est au Beau de Provence. C'est du taureau que vous avez sous vos yeux, mesdames, messieurs. Mais tout va bien.
Ça se mange.
On espère. Franchement, on le souhaite. Suite, hein. Ça se mange et il a quoi de spécial, ce taureau ?
Alors, c'est une gardienne, c'est la daube de Camarguaise. Donc, c'est un plat typiquement de chez nous. Le taureau, c'est un AOP qu'on le prépare en Camargue depuis très longtemps. Ce ne sont pas les taureaux des manades, bien évidemment. Hein. Il est élevé tranquillement, il est en semi-liberté. Et c'est une viande très juteuse, très goûteuse. Et à côté d'un filet de bœuf, parfois, il y a quand même plus de goût.
On préfère le taureau au filet de bœuf. C'est l'info du soir. Je vous en prie, dégustez. Le temps de demander à Pierre, vous parlez de la fascination un peu morbide sur ce qui se passe dans un crash d'avion, la fascination pour cette fameuse boîte noire. Mm-hmm. Mais vous, comme votre personnage, vous rêviez d'être pilote, ado.
Ça m'est passé par la tête quand j'avais, je sais pas, de 11 à 14 ans. J'étais fasciné par... je suis passé par les pompiers d'abord et ensuite j'ai très envie d'être pilote de ligne. Je ne sais pas pourquoi, vraiment pilote de ligne, c'était le truc qui me faisait rêver. Et puis j'ai découvert que j'étais myope et daltonien et nul en maths. le projet est mort dans l'œuf. Voilà. Mais en fait, un peu comme le personnage de ce film, qui est un pilote raté, entre guillemets, en tout cas, c'est ce que son père lui sous-entend. Quoi.
Mais c'était quoi le troisième rêve ? Parce qu'il est sauvé ou périr en tant que pompier. Ouais. Là, il y a Boîte Noire en tant que pilote.
Bah,
c'est
le
troisième film.
Ouais, c'est ça, ça va être le prochain film. Ça va être le prochain film, mais je ne vous dis pas. Mais le pire, c'est que c'est vrai en plus. Il y a un projet d'un truc donc, que je rêvais de faire et que je vais peut-être faire.
On ne peut pas savoir le métier, le truc.
Je peux rien vous dire.
Le métier.
Vous nous avez balancé Nagui.
Vous pouvez balancer.
On vient de balancer Nagui, pardon.
Non, je vous ai déjà donné le nom de l'assassin de Kennedy. Vous m'en demandez beaucoup, là, quand même. Excusez-moi.
Ok, voilà. Ok. Surtout, votre personnage, là où il est intéressant, c'est que c'est un lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'il s'accroche, il suit son instinct, quitte à se faire passer pour un fou. Et ça a changé un peu votre vision des lanceurs d'alerte, par exemple ?
Oui, c'est quelqu'un qui est prêt, au bout d'un moment, à brûler toute sa vie pour une vérité qu'il détient, en tout cas qu'il pense détenir.
Nagui.
Et c'est toute la force du film de Yann, c'est que c'est un film où il gère la paranoïa de manière extrêmement habile. Ça divise littéralement les salles, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait des avant-premières où des couples, à la fin, nous disaient « Moi, à telle scène, je me suis dit que ton personnage était devenu complètement fou. » Et le copain disait « Mais pas du tout, au contraire, moi, le détail du mec derrière ou du son à ce moment-là, parce que c'est un film très, pour le coup, vraiment qu'il faut voir au cinéma, parce qu'il y a une expérience sonore, et enfin, il y a un travail sur le son dingue. » Ouais. Et donc ça divise les gens et ça rend en fait la paranoïa peu à peu infuse dans tout le film, jusque dans le couple avec Lou Delage, qui est génial dans le film. Et moi j'adore, ça rend le spectateur très actif, quoi, à essayer de chercher à enquêter comme
des
détails. Comme le personnage, quoi,
ouais. Exactement, on est tous des mini Columbo.
Ouais.
Vieille référence.
C'est une mécanique phénoménale.
Et acousticien, ça demande une ouïe très fine et une concentration extrême. Vous êtes beaucoup préparé pour ce rôle. Le personnage porte souvent un casque, ce qui est plus pratique pour écouter des détails. On va voir quand même si votre niveau auditif est toujours au taquet. C'est l'heure du casque C. Écouter des sons et vous me direz qu'est-ce que c'est. C'est une astuce que j'ai. Ouais, j'adore l'humour, Pierre.
Ah bah oui, vous jouez avec les mots.
Alors attention.
Vous n'avez pas de limite.
Premier son.
C'est moi.
Qu'est-ce que c'est?
C'est.
Oui.
C'est moi.
Oui.
Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, pardon?
Oui.
Mais qu'est-ce que je fais? C'est très bizarre. C'est dans casting? Non, c'est pas dans
non,
casting.
Non.
Ah non, je double un film?
Oui. C'était ici.
Ah oui, vous m'aviez affiché.
Film.
C'était Hugh Jackman, non?
Liam Neeson.
Oh, c'est les mêmes.
On aurait aimé vous voir doublant Liam Neeson, mais comme
on n'a pas les droits.
On n'a pas les droits du film. Parce qu'il y a une règle d'or, c'est qu'on a des moyens limités.
Limités.
C'est pas une règle d'or.
Deuxième son. Qu'est-ce que c'est? Oui!
C'est le rire de Pierre Lescure. On m'a un peu aidé. Mais je ne le reconnaissais pas du tout.
Alors,
c'est juste
fou, ça?
Quand on te voit rire, c'est le truc le plus charmant du monde.
Mais
quand on t'entend rire, c'est le Joker dans Batman.
Et je suis très content parce que Chava s'était inspiré de mon rire pour La Mouche qui pète et c'est une référence.
Oui, c'est vrai.
Exactement.
Ouais, c'est clair.
Magnifique.
Un dernier, un autre, un troisième?
Oui, un dernier.
Allez, un dernier.
Ah bah, ça, c'est Jean.
Jean Dujardin, et on en avait un autre avec Jonathan Cohen, avec qui vous avez joué dans l'excellente série La Flamme, et cette scène dont je ne me lasserai jamais, la thérapie de l'imitation par l'imitation avec le coussin.
Bien sûr.
Regardez son psy, on peut la revoir, on a les droits. Super.
Je pensais que vous alliez la mimer, j'étais inquiète.
Non. Pierre Mimé.
Non, on peut.
Pierre Mimé.
Comme on est dans les jeux de mots, j'ai cru que.
Ah oui.
On la regarde,
je vois de l'autre côté. Une autre peur, juste là.
Oh non.
On l'attrape? C'est parti.
Ok.
Je mérite d'être aimé.
Plus fort.
Je mérite d'être aimé. Sentez-vous ridicule.
Je mérite d'être aimé.
C'est bien, plus de grimaces. Voilà, regardez-moi.
Plus de grimaces.
Eli Kaku.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que vous disiez au début?
Il mérite d'être aimé.
Voilà, Bourville.
Mais mon vélo, il mérite d'être aimé.
La thérapie par l'imitation, ça fait 3-4 ans que je travaille avec cet outil et c'est très très efficace. C'est plus bénéfique pour le patient, c'est plus cathartique et c'est plus divertissant aussi pour moi. Parce que je vous cache pas que parfois, à certaines sessions, un petit peu ça montre.
Ce rôle de psychiatre dans La Flamme, qui était l'une des séries événements sur Canal+ l'année dernière, qui imaginait que Jonathan Cohen était le héros d'un bachelor à la française, une série où il devait choisir une femme parmi plusieurs candidates qui étaient toutes incarnées par des grandes actrices françaises. Vous n'avez pas vu cette série La Flamme?
J'ai pas la télé, je sais. Je le regrette.
Ah oui, regrettez-le vraiment amèrement, cher Abémi.
Votre manière, Pierre Ninet, de travailler vos rôles, de changer de Pierre Ninet à chaque rôle est assez impressionnante. Quand vous aviez fait Yves Saint-Laurent, vous avez travaillé dans une boutique de retouche pendant 6 mois. Non, je plaisante.
Non, c'est pas tout à fait, mais c'était pas loin.
Mais en tout cas, vous avez appris à dessiner des modèles, et dans le film, c'était vachement impressionnant. Pour Sauver ou Périr, vous avez fait 4 mois avec les pompiers, ça c'était un rêve de gosse, comme on le rappelait. Mais vous avez aussi pris 9 kilos. Mm-hmm. Mais celui qui vous a peut-être demandé le plus d'efforts, c'est dans France, ce film magnifique, où vous avez dû vous recoller à l'allemand et au violon.
Ouais. Ouais, c'était... Mais bon, j'adore apprendre des trucs. Moi, je trouve que ce métier, il est génial pour ça. Apprendre des trucs que j'aurais jamais appris, enfin vraiment, le violon et l'allemand, enfin bon. J'adore les Allemands. Mais en fait... Le fait de visiter des gens qu'on n'est pas, déjà, moi, je trouve ça très sain, en fait. Et puis, du coup, de visiter aussi des problématiques qu'on n'a pas, qu'on rencontre pas.
Et en plus, quand on peut apprendre des choses, qu'on peut garder un peu... Alors, je dis un peu parce qu'en fait, moi, j'ai un problème et je ne sais pas si c'est un trouble psychologique. J'oublie, genre 2 mois après le film, je ne sais plus quoi les trucs. Là, je me rappelle très peu de choses. Je connaissais tous les termes techniques de la BSPP, de la Brigade des sapeurs-pompiers. L'allemand, j'avais compris plein de trucs. Je commençais à le parler et tout. Et après, je passe à un autre rôle. Et c'est comme s'il fallait faire de la place dans mon cerveau et je largue les amarres.
Ça désole, Amélie.
Et dans Boîte
Noire... ça me sidère complètement. Mais alors, Franz, ce chef-d'œuvre absolu, vous avez tout oublié.
Oui, quasiment, ouais. Je peux dire une phrase en allemand, je crois, mais sinon, ouais, sinon, non.
Mais enfin.
Mais ouais. Ça doit y avoir une logique à ça, j'imagine. Que c'est...
Mais le travail psychologique pour Boîte Noire, c'est énorme.
Et c'est le film qui m'a sincèrement le plus rincé et épuisé nerveusement. Ah oui. J'avais sous-estimé complètement ce film et ce rôle. Ça a forcément servi le film, donc c'était pas pour rien. Mais je suis sorti de ce film. Il y a des scènes, on a tourné dans des étangs à Rambouillet en novembre. L'eau était on ne peut plus froide. Il y a des très beaux plans du coup qui en sortent. Mais j'ai fini ce film et c'est un métier très solitaire quand même. Ces acousticiens, ils sont tout seuls à écouter une boîte noire avec 300 personnes qui sont mortes. Ils doivent essayer de comprendre pour expliquer aux familles le deuil. Et surtout, sur leurs épaules, il y a des milliards d'euros parce qu'il y a les compagnies aériennes, il y a les assurances, il y a les constructeurs. Donc, j'aimais bien aussi dans ce film, et je trouve que Yann le met très bien en scène, c'est cette dichotomie entre un métier très solitaire, de mecs assez fragiles, un peu geeks, et à côté, les enjeux colossaux. On l'attend dehors. Et il y a même le BEA, d'ailleurs, ils sont pressurisés par les lobbies. Hein, parce que les conclusions
sont... très, très bien expliqué dans le film, d'ailleurs. Et la pression aussi du gouvernement, qui est très importante. Ils font très rapidement des conclusions, etc. Boîte Noire, vous irez. C'est dès demain en salle.
Dès demain, je vais le voir.
C'est vrai, mais ça me fait trop plaisir. Bon.
Vous pratiquez à votre manière aussi le métier d'acteur, Amélie, puisque vous vous glissez littéralement dans la peau de vos personnages. Vous étiez Jésus dans Soif, qu'on avait adoré. Et à nouveau, vous utilisez la première personne, dans Premier Sang, pour raconter l'histoire de votre père, qui a 28 ans, alors qu'il était consul au Congo et pris 4 mois en otage. C'est par cet épisode que vous ouvrez ce 30e roman, votre père face à un peloton d'exécution, un moment essentiel, puisqu'il annonce votre vie.
Oui, c'est... Il a fallu que j'écrive ce livre pour me rendre compte que ma naissance était liée à cet épisode. Pourtant, les chiffres auraient pu m'éclairer, mais je n'y avais pas pensé. Il faut dire que mes parents sont des gens pudiques. Ils ne m'avaient pas dit, tu sais, on t'a mis au monde parce que ton père est passé sur le peloton d'exécution et qu'il en a réchappé à la dernière seconde. Et après, il s'est dit, ah, c'est tellement formidable, je suis vivant, faisons un enfant. Mais vraiment, c'est en écrivant ce livre que j'ai compris ce que mon père avait vécu pendant ces 4 mois où il a été non seulement otage, mais négociateur, puisqu'il négociait pour la vie de 1500 personnes.
Pour libérer des otages.
C'est ça qu'il a presque tout sauvé. Et il est passé plus d'une fois devant le peloton d'exécution, puisque, étant le négociateur, il était la personne la plus visée. Et donc, quand il en a réchappé, mais par pur miracle, il s'est senti investi d'un souffle de vie exceptionnel. Vous savez, quand on survit à une catastrophe impossible, et il s'est dit, mais que faire de ce surcroît de vie ? Eh bien, faisons un troisième enfant.
Petit, vous ressembliez physiquement à votre père, à tel point que dans les réceptions, dès 4 ans, on vous disait, oh, mais c'est Patrick.
Oui, j'avais tellement l'habitude de ça que ça m'agaçait au superlatif que je me présentais aux gens en disant « Oui, moi, c'est Patrick. » Mais aujourd'hui, j'ai senti une certaine légitimité du fait de...
À vous mettre dans la peau de Patrick.
Puisque je suis Patrick, eh bien, qu'est-ce qui m'empêche d'écrire réellement, non pas les souvenirs, mais l'immédiateté de Patrick devant ce peloton d'exécution et dans son expérience d'otage.
Et votre mère, d'ailleurs, qui a lu le livre, vous a dit... Mais c'est Patrick.
Mais c'est Patrick.
Votre père s'est éteint pendant le premier confinement. Vous n'aviez pas pu vous rendre immédiatement sur sa tombe. Ce livre, c'est une manière de lui rendre hommage. Et quand vous l'avez terminé, vous étiez dans le château des Notons, que vous décrivez dans le livre, et vous avez littéralement senti sa présence, Amélie.
C'est-à-dire que, vous savez, quand je termine un livre, je ne sais jamais très bien exactement quand ça va se terminer. C'est comme un accouchement, sauf que je ne vois pas forcément le moment où les pieds sont sortis, où la tête est sortie... Et là, tout à coup, j'écris cette réplique authentique de mon père. Cela dépendra de vous, Monsieur le Président. Fallait y penser, d'une réplique pareille. Et tout à coup, je me dis, tiens, et si je m'arrêtais là ? Et à ce moment-là, la lumière s'est éteinte. je me suis dit, c'est une intervention. Donc je lui ai dit, d'accord, papa, le livre s'arrête là. J'ai mis fin, c'était fini.
Depuis, vous ne l'entendez plus, votre père, alors que vous dialoguiez beaucoup avec lui jusqu'à l'écriture de... jusqu'à là, à ce que ce manuscrit soit terminé, achevé.
C'est une chose de folle. À partir de sa mort, donc le 17 mars 2020, jusqu'à la fin de la rédaction de ce manuscrit en janvier 2021, il ne cessait de me parler. Mon père ne cessait de me parler, ce que j'adorais. Mais quand même, assez vite, j'ai pensé, mais qu'est-ce que c'est que ce mort qui parle tout le temps à sa fille ? Bon, j'adore, hein, c'est très cool, mais c'est pas très bon signe de sa part. Un mort ne devrait pas se conduire comme ça, ça veut dire qu'il n'est pas tranquille. Il lui manque quelque chose. En octobre 2020, j'ai commencé à écrire ce livre. Ça s'est fait tout seul. C'était très dur en même temps, mais ça... c'était une expérience de chamanisme. Je donnais la vie à mon père pour pouvoir lui dire au revoir. Donc, il fallait le ressusciter pour pouvoir faire de vrais adieux. Et ma foi, quand j'ai eu fini d'écrire ce livre et que je l'ai apporté à mon éditeur, à ce moment-là, mon père s'est tu, mais du meilleur silence. Évidemment, moi, j'aurais préféré qu'il me parle éternellement. Mais quand on aime vraiment quelqu'un, il faut prendre son point de vue. Pour un mort, c'est meilleur de se taire parce que ça veut dire qu'il est entré dans son grand sommeil.
On découvre dans votre livre un autre personnage. Je voudrais que vous nous parliez de votre arrière-grand-père, c'est-à-dire le grand-père de votre père, qui s'appelait Pierre Noton, à la fois homme politique, poète, écrivain, connu à son époque. Il se prenait pour
Victor Hugo.
Voilà. Un homme plus que contestable, écrivez-vous.
Oui, alors dans le livre, je reste dans la litote. Il fallait que ce livre puisse plaire à mon père là où il est.
Oui. Or, votre père admirait.
Mon père, elle l'admirait terriblement. La grande différence entre moi et mon père, c'est que moi, je n'ai jamais rencontré Pierre Nothomb. Visiblement, cet homme dégageait une séduction parfaitement inexplicable parce que tous ceux qui l'ont rencontré étaient, mais complètement sous le charme. Moi qui ne l'ai pas rencontré, je ne suis pas sous le charme. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois d'abord, excusez-moi, un poète catholique du dernier ridicule, un poète à l'ancienne qui, chaque fois qu'il a une nouvelle maîtresse, écrit de nouveaux poèmes pour obtenir le pardon divin. Et c'est des poèmes dans lesquels il est question de saints glorieux, toutes les diérèses, sont là. Oui. Bon, si ce n'était que ça, ça serait plutôt mignon.
Oui, c'est la fonction de la confession la religion catholique.
Par ailleurs, c'est un aristocrate de son époque, c'est-à-dire que l'argent n'a aucune importance. Là, quand on dit ça, c'est charmant aussi, c'est
merveilleux.
Sauf que l'argent n'a aucune importance, ça signifie, si mes 13 enfants crèvent de faim, ça n'a aucune espèce d'importance, pourvu que moi, j'ai de quoi manger. Oui. À table, on servait d'abord le patriarche, c'est-à-dire lui, Pierre Nothomb, ensuite sa femme, ensuite, les aînés des enfants, et puis les moins de 16 ans, c'était seulement s'il restait quelque chose à manger.
Et votre père crevait de faim quand il allait en vacances.
Voilà, mon père au moins ne passait là que ses vacances, mais tous ses petits-enfants qui étaient là, ils passaient leur vie. C'était des conditions, et c'était des conditions extrêmement normales.
Pourtant, votre père l'admirait, et quand, au détour d'une interview, vous vous permettiez de dire... quelques phrases de travers sur votre arrière-grand-père, vous vouliez engueuler ensuite.
Je me faisais engueuler à chaque fois et bon, je comprenais que visiblement il y avait des pièces du dossier qui me manquaient. Cet homme, mon arrière-grand-père, devait dégager une séduction parfaitement inexplicable.
Même si sa poésie, c'était de la merde, ça c'est ce que dit l'un de ses enfants.
C'est ce que dit l'un de ses
livre.
Fils, mais c'est très agréable de pouvoir prêter à quelqu'un d'autre des propos que finalement on agrée tout totalement.
Oui, je sentais bien qu'il y avait du Amélie de Tombes derrière ce message-là. On le sait, vous êtes un écrivain 0% numérique. Vous vous décrivez comme un fossile pas du tout connecté, pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, zéro réseaux sociaux, surtout pas Internet à la maison. C'est tout le contraire de Pierre.
Oui.
Voilà.
Mais moi j'ai Instagram.
Et oui.
Twitter où je vais un peu moins parce que c'est toujours un peu plus violent. Mais
moi j'adore votre Instagram. Il faut absolument que vous ayez. Parce que vous n'avez pas vu La Flamme sur Canal+. C'est un film de Pierre Ninet à voir, une série avec Pierre Ninet. Et il faut uniquement pour Pierre Ninet avoir un compte Instagram. Parce que voilà ce que vous pourriez découvrir.
Allez, c'est bon. J'ai décidé de vous faire subir mes pires imitations.
Nom de Dieu, Smarty!
C'est toi qui m'as demandé d'aller voir Bart et d'aller voir Maggie.
Ah bah d'accord, c'est Pierre Palmade.
Tout d'un coup, Pierre Palman, c'est TikTok en fait. C'est... Moi, j'en suis restée à Instagram.
C'est en vrai, c'est, j'ai essayé TikTok, j'ai dû poster deux vidéos. Hein, c'est tout. Oui. Et après, en fait, j'ai accepté que c'était ça. Y est, c'est plus ma génération.
C'est terminé, vous êtes trop vieux pour flambeau. TikTok.
Mais excusez-moi, vous vous filmez vous-même ?
Oui, désolé.
C'est dingue.
Je m'excuse par avance.
Avec un bras.
Je m'excuse par avance.
C'est complètement dingue.
Mais oui, non, mais TikTok, j'ai vraiment fait une incartade en croyant, en me disant, hey, je suis quand même dans le coup, attends, voilà, et je comprends pas, et c'est pas ma génération.
Ça y est, vous êtes passé dans notre camp.
Ouais, ça y est.
Voilà. Bienvenue, cher Pierre.
Donc j'ai Instagram et Twitter, mais ça.
Voilà, mais il faut absolument suivre Pierre Ninet sur les réseaux sociaux parce qu'il y a de l'intelligence à chaque fois.
Bah, là, c'était pas probant. Là, c'était là.
Ce qu'il ne fallait pas démontrer.
Par contraste avec autre chose.
Par contraste à Bertrand Chamerois, qui conclut tous les soirs l'émission avec beaucoup d'intelligence. C'est les actualités de Bertrand.
C'est très bel accent belge. Voici les titres de ce 7 septembre. Ce soir, ABC spécial Jean-Paul Belmondo, on débriefera les hommages rendus par les JT, par les politiques, mais également par les anonymes. La nouvelle est donc tombée hier à 16h22, provoquant un léger vent de panique dans les rédactions qui ont bousculé leur programme et leur antenne. Enfin, panique, sauf à C'est à vous, hein, parce que vraiment, nous, le résultat à l'antenne était impeccable, de l'horlogerie suisse, mais j'y reviendrai vendredi, je garde ça pour la fin de semaine. Et quand une personnalité disparaît, c'est la course au témoignage qui commence. C'est à qui décrochera le plus rapidement le témoignage le plus émouvant, le plus poignant. Parmi les premières personnalités à réagir en direct sur BFM, Arielle Dombal, très touchante.
Quel est le premier sentiment qui vous vient quand vous pensez à vos échanges avec Jean-Paul Belmondo ?
Alors, c'est peut-être tout en générosité, en candeur, en effet, sans beauté.
Très bel hommage en edge, visiblement. Plus fort encore, tous les médias le voulaient, mais c'est CNews qui a décroché le témoignage que tous les JT convoitaient.
Nathalie, la voisine de parking de Jean-Paul Belmondo que l'on a croisé, je vous propose de l'écouter un témoignage très poignant de cette voisine.
Vous imaginez la gueule de BFM au même moment, ils ont la voisine de parking, et bah ouais, mais fallait être sur le coup les gars. Sur France Bleu, ce sont les auditeurs qui ont côtoyé Belmondo qui étaient invités à partager leurs anecdotes en direct.
Je sors de ma voiture et donc je vais pour ouvrir la porte du court de tennis. Et la porte s'ouvre et qu'est-ce que je vois ? Jean-Paul Belmondo.
Incroyable ! On sent dans le incroyable du journaliste qu'il s'attend à entendre quelque chose de génial sur cette rencontre inattendue entre cet homme et Bébel sur un court de tennis. Ça sent le moment de radio avec plein de petites anecdotes. Alors cette partie de tennis improvisée, c'était comment ?
Est-ce que vous avez été le voir ? Vous avez été échanger quelques mots ?
La surprise était tellement immense. Je suis resté debout et j'ai rien pu faire.
Ben, merci quand même d'avoir appelé, c'était sympa. Non, parce que le plus gros scoop sur Belmondo, c'est BFM qui l'a chopé en exclu mondial.
Alors Jean-Paul Belmondo adorait tout ce qui était hachis parmentier.
Il adorait tout ce qui était hachis parmentier, et ça, peu de gens le savaient. Hein. Autant sur JFK, il y a du monde, mais ça, le hachis parmentier,
j'avais pas l'info qui était parmentier, ça.
Et ce matin, les politiques invités des matinales ont pu prouver s'ils avaient ou non révisé la fiche Wikipédia de Belmondo. Attention, triviale poursuite surprise, camembert rose, question divertissement. Combien de films de Belmondo pouvez-vous citer, Clément Beaune ?
Le professionnel, l'homme de Rio.
Deux ? Bon, c'est pas dingue. Bon, allez, Adrien Quatennens, c'est pas dur de faire plus.
L'As des As, Le Professionnel, Peur sur la Ville.
Trois, c'est mieux, mais ça reste pas énorme. Allez, Valérie Pécresse, on joue pour un camembert.
Un Saint-Jean-Nivet, À bout de souffle, Le Marginal, Le Professionnel, L'As des As.
Et cinq, on est à ça du Clacos. Ah, Christian, c'est le moment ou jamais de passer devant.
Le Magnifique, L'As des As, Flic ou Voyou, Joyeuse Pâques, Les Sirènes du Mississippi.
Ah, égalité, cinq partout. Bon, alors, une autre question. Camembert rose encore. Hyper fastoche, celle-ci. Quel était le prénom de Jean-Paul Belmondo ? C'est à Sandrine Rousseau de jouer.
Sandrine Rousseau, candidate à la primaire écologiste, remercie Jean-Pierre Belmondo d'avoir porté haut le cinéma français. Et elle ajoute une touche d'humour noir en espérant que sa dernière cascade n'aura pas été trop difficile.
Bon, on fera un Monopoly la prochaine fois, Sandrine, et on invitera Ludovic Obraniak de l'équipe parce que lui aussi il n'est pas très au point, enfin lui non plus, sur Bébel. Il était question du film Le Professionnel et sa BO culte.
Je vais vous décevoir un petit peu, mais mon rapport, c'est pas générationnel pour moi, Belmondo. Donc pour moi, la musique qu'on a entendue tout à l'heure, c'est Royal Canin.
Et on referme cet ABC avec cette anecdote de Francis Weber sur Jean-Paul Belmondo qui devrait vous plaire, Pierre.
Il était...
Ah oui.
Il était comme certains acteurs, Depardieu entre autres, qui devaient péter avant de jouer. Alors, c'était tout à coup une rafale de paix. Tout le monde attendait. Et après, tout à coup, il entrait dans le rôle. C'était fantastique.
Merci, merci de cet hommage.
Ouais. Moi, je pourrais choisir les gens qui parlent quand je meurs.
Oui, c'est bien de le faire avant.
L'idée bien de le faire avant. Il y aurait une liste préalable que je vous autoriserai.
Le plus bel hommage, c'était Pierre hier. Bon, c'est à vous.
Ah oui, il faut demander Pierre tout de suite.
Il faut demander Pierre.
On est quelques-unes.
Avec plaisir.
Comment ça?
C'est très important. Ah oui. C'est très important de décider qui parlera ou pas. Sérieusement, moi, je me le dis de plus en plus, un peu plus chaque jour. Boîte Noire, c'est dans les salles demain avec l'excellent Pierre Ninet, Lou Delage,
André Dussolier,
bien
sûr. Sébastien Poudrou de la Comédie Française. Et il y a plein d'acteurs merveilleux. Et puis André Dussolier, il est absolument génial. Ouais. J'étais tellement heureux de partager des scènes avec lui. C'était génial.
Boîte Noire, c'est le film qui ira voir demain, dès demain matin peut-être, chère Amélie.
Demain après-midi.
Et on sera très heureux d'offrir Premier Sang à Pierre, qui est sorti depuis le 18 août dernier, avec lequel on sait que l'été est fini, mais on sait qu'on démarre une très belle rentrée littéraire avec vous, chère Amélie Nothomb. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invité à dîner. J'espère tous les deux que vous reviendrez.
Avec plaisir.
Amélie attendait la réponse de, Laval de Pierre. Maintenant, c'est Pierre qui décide. C'est Pierre a dit.
J'attends l'invitation de Pierre.
Tellement d'éloges, moi je viendrai toujours avec Amélie.
Amélie.
Ah bah, c'est plus
jamais. C'est signé. Ouais. C'est comme ça. Si vous voulez bien tous vous tourner vers John pour saluer nos téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À demain 19h. Gros bisous. Ciao.